chirurgien en chef, le Dieu Tout-Puissant, a délégué son fils, Jésus-Christ. Lui seul dispense la sagesse nécessaire, l'habilité et, ce qui est le plus important, le sang indispensable à la transplantation cardiaque. De même, à notre époque, le grand médecin manie très bien le scalpel, c'est-à-dire sa parole puissante pour bénir ceux qui recherchent la santé spirituelle. Avec cet instrument, l'un des plus affûtés de tous les temps, il provoque une séparation au centre de l'homme. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, dit la Bible, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et la pensée du cœur. Il n'est donc pas surprenant de voir que ceux qui avaient entendu le message de Christ le jour de la Pentecôte, et que décrit le livre des Actes, eurent une réaction pour le moins étonnante. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Voyons maintenant, d'après ce que la Bible dit, comment le grand médecin procède pour remplacer notre ancien cœur par un nouveau. Premièrement, il change notre vieux cœur en l'illuminant d'une manière extraordinaire. Écoutez Paul décrire cela. Si l'Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Même aujourd'hui, chaque individu s'entend exhorté en ces termes. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Cette notion de la lumière qui soudain éclate est essentielle. Lorsque quelqu'un voit cette clarté, il est à même de saisir ce qu'il ne pouvait comprendre auparavant. Où tout n'était qu'obscurité dans son esprit, la lumière jaillit. Seul le Fils de Dieu peut rendre l'homme capable de percevoir cette splendeur divine. C'est en regardant au crucifié et ressuscité que l'âme humaine peut soudain s'écrier « Mais Dieu m'aime !» Quelle prise de conscience ! Réalisez-vous que ce qui se déroula il y a pratiquement 2000 ans dans l'histoire a besoin de se concevoir dans le tréfonds de notre intellect. Ce n'est qu'alors que nous pouvons laisser notre foi confiante dire « oui » au rachat de Jésus. Foi et intelligence ne s'excluent pas mutuellement. D'après les Écritures, la foi, celle qui sauve, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est au travers de cette sorte de foi que notre vieux cœur obscurci se trouve changé par un autre, éclairé, afin que notre esprit puisse être inondé de la lumière de Christ. Deuxièmement, qu'advient-il de l'ancien cœur rebelle? Le Fils de Dieu désire et peut le remplacer par un cœur pénitent, qui cherche à faire la volonté de son Créateur. Il n'est toutefois pas suffisant de permettre à Christ de nous ouvrir les yeux concernant la réalité de nos péchés. Nous sommes de plus appelés à passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Ce processus, la Bible le nomme repentance ou encore changement de volonté, de désir. La conversion n'est pas amenée de prime abord par une réaction en chaîne des sentiments, mais bien par la volonté humaine. Nombre de choses doivent changer dans nos vies si nous recherchons l'amitié et l'estime du Saint Dieu. Nous ne pouvons cependant nous défaire de notre cœur, chargé et fatigué par notre seule force. Et pourtant, avant que Jésus nous procède au remplacement de notre cœur de péché par un cœur pénitent, il va faire ce qu'exige tout médecin. Il va désirer le consentement du malade. Il doit entendre notre oui, car quiconque accepte une greffe admet que son ancien cœur est irrécupérable, incurablement malade. De même, celui qui désire se repentir admet implicitement que sans Christ, le divin spécialiste du cœur, il est perdu. C'est cette même réalisation du fait qu'il est maintenant sauvé qui encourage le disciple de Christ à pratiquer ses œuvres dignes de la repentance dont parle le livre des Actes. Troisièmement, comment le grand médecin peut-il libérer notre conscience alourdie par la faute de nos chutes? Il est évident que l'Évangile atteste le rachat par la crucifixion de Christ, que son sang précieux peut aisément payer le prix de nos péchés. Mais à partir de quel moment l'âme peut-elle être convaincue d'avoir personnellement reçu le pardon de ses fautes? Comment et quand Jésus fait-il l'échange de ce cœur gonflé de péché par un nouveau, confiant de son salut éternel? Il y procède durant le baptême qu'il a lui-même institué, si nous le recevons avec une foi pénitente. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre ordonne à ceux qui recherchent le salut que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il dit bien chacun d'entre vous, pas simplement ceux qui le jugent nécessaire, non, il dit bien chacun. Et dans quel but? Pour le pardon de vos péchés. C'est le motif qui pousse ce même Pierre, dans sa première épître, à désigner le baptême par ces mots « engagement d'une bonne conscience envers Dieu ». Le Fils de Dieu est bien notre médecin suprême, un praticien qui jamais ne commet d'erreur. Il est aisé, après réflexion, de réaliser combien il serait vain et ridicule à la fois de repousser ses sages conseils, ses saines directives sous prétexte que nous en savons aussi long que lui sur la manière de diriger notre existence. Avez-vous été enseveli avec Jésus dans le tombeau liquide du baptême de manière à pouvoir ressusciter et vous écriez avec une joyeuse conviction « Mes péchés viennent d'être pardonnés, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». Quatrièmement, non seulement le Seigneur Jésus nous libère-t-il de nos fautes, de nos iniquités, mais de plus, il accorde le don du Saint-Esprit à chacun de ceux qui lui font confiance et lui obéissent. Par son esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Ainsi, notre cœur d'antan rebelle et têtu disparaît. Un autre prend forme. Un cœur brûlant d'amour pour Dieu et nos frères, les hommes. Cet amour va se prouver en action, tout comme Jésus le prédit. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Celui qui vient de recevoir un nouveau cœur nécessite des soins attentifs. Il en va de même pour le chrétien qui vient de naître. Lui aussi a besoin d'un milieu spécial pour pouvoir s'épanouir. Et c'est précisément la raison pour laquelle le Seigneur lui-même a créé son Église. Il s'agit de son corps dans lequel les chrétiens, en tant que membres vivants, vont professer la vérité dans l'amour, croissant à tous égards en celui qui est le chef. Les Écritures ne connaissent pas de christianisme privé, ou vivant recroquevillé sur lui-même. Celui qui aime véritablement son Sauveur suivra de tout cœur, à cause de cela, les enseignements du Maître. Il deviendra très vite un membre actif et fidèle de l'Église que Christ s'est acquise par son propre sang. Dieu approuve-t-il les transplantations cardiaques? Telle était déjà la question posée au début de notre entretien. La greffe d'un cœur physique, matériel, musculaire, ne concerne en rien le cœur dont l'Éternel se préoccupe avant tout. Chacun doit décider pour lui-même, comme pour n'importe quelle autre opération chirurgicale, s'il veut courir le danger que comporte cette intervention. Par contre, il est maintenant évident que dans les Écritures, le Créateur parle d'un changement de cœur chez celui qui veut venir à lui. Il s'agit de la condition préliminaire à toute obéissance à sa volonté, source de vie pour l'être humain. Seul Jésus-Christ est capable de faire cette greffe spirituelle. Et pourtant, il demande à chaque fois le consentement de l'intéressé. Jésus ne peut toutefois réussir sans une pleine confiance en lui, sans une décision de suivre sa volonté, sans un ferme désir de faire ce qu'il demande. Il faut également se souvenir du fait que cette transplantation cardiaque représente une question de vie ou de mort. En fait, une question de vie éternelle et de mort éternelle. Combien de temps encore allez-vous retarder l'instant de cette opération vitale? Vous connaissez certainement le plus grand spécialiste de transplantation cardiaque de tous les temps. Il n'a jamais raté une seule opération. Il peut changer le cours de votre existence en faisant de vous un nouvel être, une nouvelle créature. Pourquoi ne pas accorder votre entière confiance au Fils de Dieu, puisqu'il s'agit de lui? À ceux qui ont fait le pas de la confiance et de l'obéissance en recevant un nouveau cœur, s'adressent ces paroles. Comme dans toute chirurgie cardiaque, les chrétiens doivent faire face aux problèmes que constitue leur vieil homme, désirant sans cesse rejeter le nouveau cœur, le vieil Adam, notre esprit charnel, lutte contre l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il est si important de suivre scrupuleusement les prescriptions de notre médecin en chef, de rester sous surveillance en prenant garde aux exhortations de Paul. Qui dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On parle trop ou trop peu des chrétiens. Trop car tout le monde se croit chrétien parce qu'à la naissance on lui a collé une étiquette dans le dos, et pas assez des véritables chrétiens, disciples de Jésus-Christ, qui s'efforcent de faire sa volonté à tout prix et tentent de partager leur foi avec les autres. Seulement voilà, le monde religieux est déchiré, morcelé, divisé, et personne n'ose s'aventurer de peur de tomber dans le chausse-trap des sectes, du fanatisme ou de l'exploitation. Que faire? Où aller? À qui se confier? Avez-vous jamais songé à repartir à zéro, à retourner aux origines, la Bible? Croyez-moi, la réponse est là, dans toute son originalité, dans toute sa limpide simplicité. Peut-être passez-vous à côté de la seule chose sur laquelle vous pouvez vraiment compter, la parole de Dieu dans ce qu'elle comporte de direct, de pur, de compréhensible à tous. Possédez-vous une Bible? L'avez-vous déjà lue, étudiée, méditée?